Il est maintenant 17h45 sur ARB, Info Weekend, Mickaël Genesky.
Un accident de la route coûte la vie à deux personnes à Vaud. Elles ont succombé à une collision frontale entre deux voitures provoquée par une tentative de dépassement dangereux. La kermesse annuelle de la CAPA, l'association comptait sur la générosité du grand public pour aider les personnes âgées du Faubourg Blanchot. Demain, le rendez-vous sur la côte ouest, ce sera le marché de mamie, l'événement mensuel de la commune de Farino. L'actualité aux États-Unis, la campagne présidentielle et ce duel lancé entre Kamala Harris et Donald Trump. La candidate démocrate change de ton pour essayer de battre les républicains. En métropole, la balle est dans le camp des politiques après le succès annoncé des Jeux Olympiques 2024 à l'approche de la cérémonie de clôture. Le sport, justement les JO de Paris, à deux jours de la fin des épreuves, les tricolores sont à la sixième place du classement des médailles, mais ils attendent de nouvelles récompenses. Et en Calédonie, du tennis, avec près de 120 joueurs réunis à l'Open du club du Receiving ce week-end. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Le bilan de l'accident de la route survenu à Vaud ce matin s'est donc alourdi. Ce sont deux personnes qui ont perdu la vie ce matin dans une collision frontale entre deux véhicules, Léana Colombo.
Oui, il s'agit d'un homme de 39 ans et d'une femme de 57 ans. L'accident s'est produit vers 9h30 sur la RT1 à l'entrée de la tribu Dunjo. Un véhicule avec deux occupants a réalisé un dépassement dangereux et a percuté frontalement la voiture avec quatre passagers à son bord, dont les deux victimes. La femme conductrice est décédée sur place, tandis que l'homme, un passager arrière, est mort après avoir été transféré au CHN de Koné. Les autres passagers, blessés plus légèrement, ont été pris en charge par les secours. Des dépistages de drogue et d'alcool ont été effectués et une enquête est ouverte. Il s'agit du 15e et du 16e décès sur nos routes depuis le début de l'année.
Et puis des incendies hier soir dans le Grand Nouméa. Le premier est survenu dans le quartier de la Vallée du Tir, Léana.
Vers 20h, un incendie a ravagé une maison située rue Dumont-Durville. Les CRS ont rapidement circonscrit le feu, puis les pompiers sont intervenus. La maison qui était squattée était principalement constituée de bois et était en ruine. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances de cet incendie. Et le second, du côté de Jacarandas à Dumbéa, un feu de brousse s'est déclaré hier aux alentours de 18h vers le Pic aux Chèvres. Environ 2 hectares ont brûlé. Grâce à l'intervention rapide des pompiers et au renfort de la sécurité civile, 4 maisons un temps menacées ont été sauvées des flammes.
Au chapitre politique, le Palika organisait un rendez-vous pour ses militants et sympathisants ce samedi. Dans le Nord, dans le Sud et aux îles, c'était une journée consacrée à une réflexion globale pour dresser l'état des lieux de la situation insurrectionnelle et pour identifier les dispositifs de sortie de crise, ainsi que le soutien aux initiatives locales. C'est ce que nous a expliqué l'un des porte-parole du Palika, Judikael Séléphène.
Aujourd'hui, le message, c'est un parti politique. Il y a la dimension politique d'un parti, mais il y a aussi la dimension opérationnelle d'un parti. Aujourd'hui, le message, c'est on est là, il y a une situation de crise et on doit agir pour résorber cette situation de crise à tous les niveaux. Donc on a les élus, on a les organisations politiques et nous, on est là sur le terrain. Il faut agir pour sortir le pays de la crise. La suite des travaux, ça donnera lieu à un plan d'action que les structures auront à prendre en charge et on va dérouler ça pendant tout le mois d'août. Parce que les camarades qui sont dans les institutions nous l'ont annoncé, que le mois d'août et le mois de septembre, ça va être deux mois déterminants. Il va falloir qu'on agisse et on sorte un plan d'action pour parer à la crise.
Judikael Séléphène, l'un des porte-parole du Palika. Le Palika qui fera le point sur les travaux de ce samedi dans les prochains jours.
RRB 17h49.
Dans le reste de l'actualité, malgré le contexte est encore compliqué sur le territoire, des événements sont maintenus, comme par exemple la kermesse de l'ACAPA qui avait lieu aujourd'hui au Faubourg Blanchot, Léo Fichou.
Et depuis très tôt ce matin et même depuis quelques jours déjà, les bénévoles de l'ACAPA ont cuisiné, préparé et installé les différents stands, notamment une bibliothèque, une friperie, un stand de vente de plantes, mais aussi une restauration. Toute la journée, les bénévoles et les personnes âgées ont accueilli les visiteurs dans les locaux de l'association, et toujours avec le sourire dans une ambiance conviviale.
On a la joie de vivre, nous.
Tout le monde est content de se rencontrer. Ça avait fermé 2 mois pour les événements, là. Et tout le monde est content de se retrouver.
J'ai 91 ans, hein. Ça m'occupe parce que moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne dors pas et il faut que je travaille. Voilà.
Mais ça fait bien, ça fait du bien, hein, parce qu'on a besoin de ça. Avec ce qui se passe maintenant, là, l'état d'esprit qu'il y a actuellement partout, là, je crois qu'il faudrait qu'on se remette en question, finalement.
Oui, ça fait toujours plaisir de voir les petites mamies, ce qu'ils ont préparé, surtout fait maison. Donc voilà.
Ça fait du bien, ça nous remet en bon état, quoi. On en a bien besoin.
Les bénévoles et les personnes âgées sont ravis de partager un moment ensemble à la kermesse, mais l'association, elle, ne s'en sort plus. La présidente Liliane Condoumi insiste, la CAPA a besoin de fonds pour continuer à vivre, à survivre même. Alors, on entendra peut-être plus tard Liliane Condoumi qui insistait sur le fait que la CAPA a besoin de fonds. La kermesse qui s'est achevée aujourd'hui à 16h par le traditionnel tirage au sort de la tombola.
Et puis un marché solidaire se déroulait au hall de Magenta ce samedi. Il s'agissait de la deuxième édition de ce rendez-vous mis en place après la crise des émeutes, notamment pour répondre aux besoins des producteurs et des artisans qui ont ainsi l'occasion de retrouver leur clientèle.
Manon, de Brin Végétal, donc je suis sur Coutiot. Ben, ça se passe bien en tant qu'exposant, c'est la deuxième édition, j'ai participé aux deux, c'est très bien, parfait. On avait hâte de reprendre les marchés, hein, c'est vrai.
Vous proposez quoi sur votre stand, vous ?
Des cactus et succulentes et des compositions végétales.
Alors Loïc Beneteau, des ruches de Loïc. Les gens sont là, donc on a de la visite, ça tourne, donc ça va, c'est bien. Il faut être sur tous les marchés de toute façon et revoir un peu tout le monde, ça fait plaisir.
Votre activité, comme tant d'autres pour vous, il n'y a pas le choix, il faut ce type d'événement.
Oui, complètement, on a au moins 50% de perte d'activité, donc il faut absolument faire les marchés et puis s'accrocher et rien lâcher parce qu'on n'a pas le choix.
C'est mon stand, Marceline Gourou. Nous, les produits qu'on a, ça vient de Ponérioin. On a les cordelines, on a en pot. Les cordelines en bouture, ça varie de 1000 francs à 3500 les boutures. Et on a un peu de manioc et les ignames, voilà. Voilà, c'est bien de se retrouver, échanger entre nous, voir, cela, on vient de loin, on vient de Ponérioin. La plupart des plantes qu'on a, ça vient de Ponérioin avec les produits qu'on a, de la tribu de Chamba. C'est très très important. Et ça fait du bien de voir tout le monde se revoir, discuter. Voilà, après les événements, voilà.
Un marché solidaire organisé par Pacific Fair, son gérant Bruno Aurelio.
On avait décidé de le lancer le mois dernier suite à la conjoncture actuelle qui est très difficile pour les commerçants, les artisans, également les agriculteurs parce qu'ils ont des produits périssables. Au-delà du côté financier, c'était un gâchis tout simplement. Avec eux, on a poussé voilà, pour organiser ce marché solidaire le mois dernier qui a très bien fonctionné. Et donc, on a réitéré cette organisation. Donc, on sera tous les deuxièmes samedis ici au Hall de Magenta. Donc, ça permet d'avoir vraiment des prix très concurrentiels, voilà, des prix au plus bas. Et surtout, voilà, vous allez acheter des produits directement aux producteurs, aux artisans, et les avoir en direct. Donc aussi, ça permet d'échanger avec eux.
Un marché solidaire qui se déroulera donc encore au Hall de Magenta le mois prochain.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Encore des événements à venir demain dimanche au programme des marchés mais aussi des vide-greniers Léo Fichou.
À commencer par le marché de Mamie à Farino, il s'agit d'une édition spéciale qui rendra hommage à Mamie Fogliani décédée il y a 4 ans avec un thème gourmand. À retrouver sur place des produits locaux et de terroir, des fruits et légumes, des plantes de l'artisanat local et bien plus encore. Encore selon Ghislaine Harly, la présidente du marché de Farino.
Mamie, elle représente la cuisine calédonienne et donc pour ça, on met en exergue tout ce qui est cuisine, produits et les gens vont faire goûter plus que d'habitude hein, leurs produits et vont cuisiner plus de plats pour mettre en vente sur les stands. Et nous, l'organisation du marché, nous mettons des tables sur le deck de la mairie et les gens pourront déjeuner sur place avec l'animation musicale, avec cette belle vue que l'on a au marché de Farino. On aura aussi une petite dégustation d'un éventail des produits du marché. Notamment, je vous donne un exemple, il y en a une qui fait de la crème de soussoute. Alors on fera déguster gratuitement pour les visiteurs et puis bien sûr aussi des sirops, des produits locaux.
Le marché de Mamie se tiendra sur la place de la mairie de Farino demain de 8h à midi. Et puis à Rivière-Salée, le parc municipal accueille demain aussi un vide-grenier de 7h à 13h organisé par l'association Solidarité RS. Les habitants du quartier se sont mobilisés pour nettoyer le site afin d'accueillir l'événement dans les meilleures conditions. Eva est la vice-présidente de l'association.
C'est important que les gens, lorsqu'ils vont venir pour le vide-grenier, qu'ils soient dans un lieu propre et puis mis en état. Du moins, on va essayer. Nous, ça nous permet aussi de pouvoir se retrouver. Même avec les habitants, ça permet aussi de, involontairement de se rapprocher aussi d'eux, de créer du lien, du contact.
Le rendez-vous est donné au parc municipal de Rivière-Salée de 7h à 13h. Et demain, ce sera le grand retour du vide-grenier du centre-ville, place des Cocotiers, du kiosque à musique à la place de la Paix. Les bonnes affaires sont à dénicher à partir de 7h30 et jusqu'à midi.
Il est 17h passé de 55 minutes. Restez avec nous après la pub. Nous verrons ce qui fait l'actualité nationale et dans le monde. Et le dernier meeting de Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Weekend, Mickaël Juneski.
L'actualité dans le monde aux États-Unis, Kamala Harris continue sa tournée électorale à travers le pays, à 87 jours de l'élection présidentielle. La vice-présidente américaine était en Arizona ce week-end, un rassemblement important dans un État frontalier clé que les démocrates tentent de conserver, mais où ils rencontrent de grandes difficultés face à l'opposition républicaine. Aviva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
L'immigration est un peu le talon d'Achille de Kamala Harris. Les républicains ne se privent pas de répéter en boucle que si la frontière mexicaine est une passoire, c'est la faute de la vice-présidente en charge d'une partie du dossier migratoire, des arguments que la candidate a balayés.
Il y a quelques mois, nous avions l'opportunité de faire passer, avec les deux parties, la loi sur la sécurité à la frontière la plus dure depuis des décennies. Mais Donald Trump a fait capoter l'accord, parce qu'il pensait que ça l'aiderait à gagner l'élection.
Kamala Harris a également voulu projeter l'image d'une candidate forte, bien loin du laxisme que lui reprochent ses adversaires.
J'étais ministre de la Justice d'un État frontalier. Je me suis attaquée aux gangs internationaux, aux cartels et aux trafiquants d'êtres humains, et j'ai gagné.
Un CV que Kamala Harris n'avait pas mis en avant lors de ses précédentes campagnes pour ne pas s'aliéner l'aile progressiste du parti. Le changement de ton signale qu'elle entend combattre les républicains sur leur propre terrain, une stratégie qui pourrait s'avérer payante en Arizona.
Aviva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Au Brésil, pas de survivants après le crash de l'avion de la compagnie aérienne Voepas. L'appareil s'est écrasé à São Paulo. Les 62 passagers qui se trouvaient à bord sont morts. Il n'y a toujours pas de confirmation de la façon dont l'accident s'est produit, a écrit la compagnie sur son site internet. Et puis un mot de l'actualité dans l'espace avec ces deux astronautes américains qui seront coincés probablement jusqu'en février à bord de la station ISS. Alors qu'ils ne devaient y rester que 2 semaines. Ils ont quitté la Terre début juin pour une mission de 8 jours, mais ils en sont désormais à 65 jours en orbite en raison d'un problème technique sur la capsule conçue par Boeing. La NASA a appelé à l'aide la société SpaceX d'Elon Musk. L'actualité en métropole. Alors que la catastrophe était annoncée sur le réseau de transport parisien à l'occasion des Jeux Olympiques 2024, forte affluence dans le métro ou incivilité, pour le moment c'est tout le contraire qui se produit. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, n'a pas manqué de le souligner.
Nous avons transporté 4 millions de personnes, 3 500 000 franciliens qui sont restés et qui ont poursuivi leur déplacement quotidien. C'est la même jauge qu'un été normal. Et 500 000 spectateurs transportés en plus chaque jour. On est en passe de réaliser un exploit olympique, celui d'avoir transporté tous les spectateurs et les athlètes des Jeux Olympiques 100% en transport en commun. Donc c'est un défi évidemment écologique et logistique et qui, je l'espère, mettra la barre très haut pour les autres villes hôtes qui accueilleront les Jeux après nous.
Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. La classe politique française qui espère profiter de la réussite annoncée de ces Jeux Olympiques. Décryptage d'Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Anne Hidalgo d'abord, satisfaite de voir les visiteurs se réjouir d'un Paris largement piétonnisé. La maire de la capitale y voit la réussite de sa politique anti-voiture, marquée par des travaux colossaux, un succès qui la pousserait même à envisager une nouvelle candidature à l'hôtel de ville en 2026. Autre figure politique de ces JO, Valérie Pécresse, tenue responsable de la fluidité constatée dans les transports en commun, critiquée il y a plusieurs mois pour avoir augmenté le ticket de métro à 4 euros pendant ces Jeux, elle multiplie en ce moment les apparitions pour mettre en avant son bilan olympique, bilan qui la réhabilite quelque peu sur la scène nationale après sa lourde défaite à la présidentielle en 2022. Au gouvernement, Gérald Darmanin devrait mettre à son actif le succès de ces Jeux sur le plan sécuritaire. Une réelle satisfaction, autant qu'un soulagement pour le ministre de l'Intérieur, pour qui l'événement représentait le point d'orgue de son passage place Beauvau. Enfin, Emmanuel Macron pourrait bénéficier un temps de la ferveur suscitée par les JO, même si la situation politique et l'absence de Premier ministre devraient très vite le rattraper.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et le président de la République, Emmanuel Macron, entend prolonger la parenthèse olympique jusqu'au 14 septembre avec une grande parade sur les Champs-Élysées. Tous les athlètes ayant participé aux JO et aux Jeux paralympiques sont invités. 18h, après une dernière page de publicité, justement, nous verrons tout le sport côté résultats.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
La suite du journal et tous les sports, Mickaël Gineski.
Et on prend tout de suite la direction des JO de Paris 2024.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Avant-dernière nuit olympique pour nous et on aura droit, quoi qu'il arrive, à 3 nouvelles médailles demain matin, Léo Fichou.
Effectivement, on peut compter sur les sports collectifs, un programme très dense cette nuit avec de nombreux grands rendez-vous pour le handball, le basket et le volley notamment. Le volley masculin d'abord à 22h. En finale, les Bleus, champions olympiques en titre, vont tenter de conserver leur médaille d'or. Ils affrontent la Pologne, championne d'Europe en titre à 22h. Donc, en handball, les féminines voudront elles aussi conserver leur titre obtenu en 2021 à Tokyo. Elles seront opposées à la Norvège dès minuit. France-Norvège, c'est la même affiche que la finale du Mondial l'an dernier. Mondial remporté par les tricolores. Et puis, le basket masculin, demain matin à 6h30, heure de Nouméa. Les coéquipiers de Victor Wembanyama tenteront de faire tomber l'ogre américain. Une revanche de la finale des Jeux Olympiques de Tokyo. À domicile, poussé par un public en folie, les Bleus savent que tout est possible. D'ailleurs, sur les 3 dernières rencontres entre les deux équipes, la France a battu la Team USA à 2 reprises.
Alors voilà pour les sports collectifs. Est-ce qu'on a d'autres chances de médailles ce soir et demain matin, Léo ?
Bien sûr, on y croit en tout cas. En escalade de vitesse, d'abord avec Oriane Berton. La Française peut viser une médaille en escalade combinée, bloc et difficulté. Elle avait terminé 5e en demi-finale. Début de sa finale du bloc à 19h15, suivi de la difficulté à 21h35. En taekwondo également avec Althea Lorrain. La tricolore dispute actuellement son 8e de finale dans la catégorie des plus de 67 kilos. On suivra aussi le golf, la 4e et dernière journée, avec Céline Boutier qui doit signer une carte quasi parfaite et espérer des erreurs de ses adversaires pour remonter sur le podium. Elle est actuellement 6e. Et puis en athlétisme, on le rappelle, le compteur est toujours bloqué à 0 médaille, mais il reste quelques belles opportunités, comme sur le 110 mètres et avec Sirena Samba Mayela, le 800 mètres avec Gabriel Tual. On a aussi 2 Français sur le 5000 mètres et au programme, il y aura les 2 relais 4 x 400 mètres.
Faisons le point sur le tableau des médailles et sur les médailles du jour. Et
oui, ce matin, l'équipe de France de football a perdu en finale du tournoi olympique. Une défaite 5-3 contre l'Espagne, synonyme de médaille d'argent pour Thierry Henry et ses joueurs. Mais le capitaine Alexandre Lacazette est fier du parcours et de son équipe.
Oui, ça reste une belle aventure, surtout pour moi qui n'avais pas vécu le maillot bleu depuis pas mal d'années. Donc pour moi, je vais essayer de garder que du positif et du bonheur. On a eu ce trou pendant plusieurs minutes en première mi-temps après notre but qui nous fait défaut. Maintenant, le match est terminé, ça sert à rien de revenir sur ça, l'aventure est finie. On va essayer de positiver, de garder de belles images sur ces 2 mois qu'on a passé tous ensemble. On sait qu'il y a du positif, mais on sait aussi le fait d'avoir perdu, ça nous enlève un peu cette satisfaction. On n'a jamais rien lâché parce que depuis le début, la France est derrière nous. Encore ce soir, du début jusqu'à la fin, le public a été derrière nous. Je ne doutais pas sur ça. Je ne doutais pas sur ça du public. Mais oui, merci aux supporters. Merci à tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui nous soutiennent, que ce soit sur les réseaux ou différemment. Donc merci.
Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont décroché la première médaille olympique en football, on le rappelle, depuis l'or de 1984. C'était à Los Angeles. En tennis de table par équipe, les frères Lebrun et Simon Gauzy ont, eux, décroché le bronze la nuit dernière face au Japon. Et du coup, au tableau des médailles, la France chute à la 6e place. La délégation tricolore compte 56 podiums, dont 14 médailles d'or, 20 en argent et 22 en bronze. Les États-Unis sont en tête devant la Chine et l'Australie. Le Japon est 4e, la Grande-Bretagne 5e.
Et puis, le jeu des jeux. Et c'est Simone de Dimbéa qui est aujourd'hui la gagnante de Mémoire de jeu qui remporte un bon de carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. Nous vous demandions lequel de ces sprinteurs américains était surnommé la loco des Waco. Vous aviez le choix entre Michael Johnson, Edwin Moses et Calvin Smith. La bonne réponse était Michael Johnson, surnommé la loco des Waco en raison de sa foulée courte et de son buste très droit lorsqu'il était en piste. Il détient 4 titres olympiques sur le 200 mètres, 400 mètres, le relais 4x400 mètres. Edwin Moses est élu spécialiste du 400 mètres haies et détient 2 titres olympiques. Calvin Smith était spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres et il détient un titre olympique sur le relais 4x100 mètres.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le sport encore dans la région Pacifique à présent et du rugby avec ce duel entre les Springboks sud-africains et les Australiens à l'occasion de la première journée du Rugby Championships. Les Sud-Africains menaient après 66 minutes de jeu 28-0 sur le terrain des Wallabies. Et puis d'ici quelques minutes, les All Blacks tenants du titre recevront les Pumas argentins en Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi du match à 18h15. En Polynésie française, du football avec la sélection calédonienne des moins de 16 ans qui affrontera demain l'équipe de Tahiti, hôte du tournoi au dans la petite finale de ce championnat d'Océanie. Le vainqueur gagnera au passage un billet pour le mondial des moins de 17 ans. Coup d'envoi de la rencontre à midi, heure de Nouméa. Et puis, sur le territoire, il y a du tennis ce week-end, la suite de l'Open du Receiving. Dans une bonne ambiance, environ 120 joueurs et joueuses vont tenter de décrocher le titre, Léo Fichaud.
Le plus jeune joueur a seulement 9 ans, le plus âgé en a plus de 55 et c'est ce qui fait la beauté du tennis et surtout celle de l'Open du Receiving. Les différentes générations sont réunies sur les terrains mais aussi au clubhouse dans la bonne humeur. Le soleil est de la partie, tout est réuni pour un tournoi réussi. François Fortier est juge arbitre.
Pourvu que ça dure, oui. Pourvu que ça dure, oui. Non, mais en fait, ça se passe très bien. C'est très agréable pour nous juges arbitres. Et puis bon, le receiving, il y a très peu de clubs aussi agréables, quoi. Alors, ben, une très bonne ambiance au receiving. Il y a toujours une très bonne ambiance. Hein. Et puis, ça se passe très bien. Les gens sont contents de jouer parce que ça leur permet de sortir un petit peu de leur quotidien qui, en ce moment, n'est pas terrible. Hein. Donc ça se passe très bien. En fait, chez les hommes, on a joué une dizaine de tours et il en reste à peu près autant, hein, entre 10 et 12 tours.
Ce week-end, donc, les joueurs classés 15-3 et 15-4, soit les troisièmes séries, entrent en lice. L'Open du Receiving se poursuit jusqu'au week-end du 24 et 25 août.
Merci beaucoup, Léo Fichaud. Il est 18h passé de 8 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous. Eh bien, pas de vigilance particulière tout d'abord pour cette nuit sur l'est et sur la pointe sud. Le ciel sera passagèrement nuageux et de rares averses resteront possibles. Ailleurs, le ciel sera bien dégagé malgré un fin voile de nuages élevé qui envahira le ciel en fin nuit par le nord. Sur l'ouest, l'alizé faiblira rapidement laissant place à quelques brises de terre.